Merci d'être là aussi nombreux dans ce lieu agréable. Nous sommes ici tous les deux pour parler de Philippe K. Dick. Il se trouve qu'on a tous les deux fait une partie de nos études universitaires de littérature sur cet auteur. Et c'est d'ailleurs lui qui nous a réunis puisqu'on s'est rencontrés autour de ça. Et d'autre part, ça tombe bien parce que Étienne vient de sortir, il n'est même pas sorti d'ailleurs, il y a un avant-première ici. Il vient d'écrire le petit guide à trimballer de Philippe K. Dick, qui est voilà, un résumé et un compendium de questions et de réponses autour du personnage qui était Philippe K. Dick et de son œuvre. Donc voilà, on va beaucoup parler de ça. Donc il pourra le dédicacer juste après la conférence. C'est aussi le 2012, c'est le trentenaire de la mort de Philippe K. Dick. C'est pour ça qu'il y a pas mal de festivités, de conférences. Et donc ce livre tombe à point pour répondre à quelques questions et quelques fausses idées sur Dick, notamment. Et il y a plusieurs questionnaires dans le livre d'Étienne, où il s'efforce de répondre à des questions du genre « Dick était-il fou ?» C'est une fausse idée qu'on a beaucoup. « Dick écrivait-il vraiment mal ?» Parce que voilà, une autre des idées qu'on dit « Oui, il avait des super idées, mais il écrivait mal. » Ben voilà, je voudrais déjà commencer par parler de ces deux questions avant peut-être d'évoquer plus en profondeur le personnage et puis après l'œuvre. Dick était-il fou et écrivait-il mal ?
En premier lieu, bonjour. Philippe K. Dick était-il fou ? Oui, non, peu importe. Ni vous ni moi ne le connaissons. On ne le connaît que par oui-dire, par des témoignages de seconde main, par des textes qu'il a pu écrire. Je suis parfaitement incapable de faire la psychanalyse d'un texte de fiction, je suis incapable de faire la psychanalyse d'une correspondance, et je suis incapable de faire la psychanalyse d'un témoignage de quelqu'un qu'il aurait connu. Néanmoins, on peut dire qu'il souffrait de nombreux troubles. Paranoïa, dépression violente à répétition, tendance violente au moins... selon les témoignages d'une de ses ex-femmes, un être cyclotymique, complexe, d'une certaine façon, mettait à nu tout son monde et tout son trouble intérieur. Alors, après parler de folie, je trouve ça extrêmement caricatural, c'est un argument de journaliste. Parce que on peut, voilà, c'est l'écrivain fou qui a écrit Blade Runner. Voilà, on peut passer à l'autre étiquette si vous voulez. La folie de Dick, on va prendre trois exemples, mais on va être aux limites de la caricature. La folie de Dick revient parce que justement, à la fin de sa vie, en 1974, il a eu cette grande expérience mystique, bon, sur laquelle on reviendra peut-être. Voilà, qui l'a perturbé, qui l'a remué au-delà de toute raison. Tout ce qui m'intéresse, c'est de me dire que cette expérience a réellement eu lieu. Je me moque de savoir s'il a rencontré Dieu ou pas, tant que Dieu ne vient pas me parler à moi dans mon Limousin profond. Bon. Mais ce qui est important, c'est que lui a vécu quelque chose qui était authentique. Alors après, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il a vécu ? Est-ce que c'était une véritable révélation ou est-ce que c'était une espèce d'attaque cérébrale du lobe frontal qui a comme caractéristique justement de provoquer des hallucinations et une perte de contact avec la réalité. Mais je pense, on pourrait évoquer Antonin Artaud, on pourrait évoquer Carl Gustav Jung, qui a passé 30 ans de sa vie à écrire son livre rouge et qui n'a été publié que longtemps après sa mort. Et surtout, moi, je pense à Blaise Pascal, qui, au XVIIe siècle, a vécu cette nuit de feu où, pendant une nuit entière, il a eu des hallucinations et une révélation divine. Blaise Pascal, Il était sur les billets de 500 francs. Et qui, jusqu'à la fin de sa vie, apportait son mémorial, c'est-à-dire une feuille de papier sur laquelle il avait écrit son témoignage, cousu à l'intérieur de ses vêtements. Et quand il changeait de veste, il demandait à ses domestiques de coudre le papier dans une autre veste. Est-ce que quelqu'un viendra vous dire « Blaise Pascal était fou » Mis à part Gilles Goulet, dont on parlera tout à l'heure. Donc non, on voit bien le problème de la caricature et le problème des mots qui perdent de leur sens. Philippe Cadic a été interné plusieurs fois dans sa vie. Il n'a jamais été reconnu médicalement fou. Il a été aimé par ses amis, il a été aimé par de nombreuses femmes, il a été aimé par ses enfants. Ça a été quelqu'un de bien, ça a été quelqu'un des fois de pas très très bien. Donc ça a été quelqu'un de complexe, mais certainement pas un fou.
Écriture.
Ah, oui, le style. Là aussi, c'est une autre étiquette de journaliste qui revient fréquemment. Philippe Cadic ne savait pas écrire. La preuve, certains de ses romans sont très mauvais. Alors c'est vrai, certains de ses romans sont très mauvais, surtout ceux qu'il écrivait en quelques semaines à peine, histoire de toucher rapidement un petit chèque, afin de continuer à pouvoir travailler sur ses livres de littérature générale. Mon idée, c'est que cette histoire du style est un héritage d'une conception un peu romantique de l'écrivain, où l'on considère que l'écrivain est quelqu'un qui emploie une belle langue, donc qui emploie la métaphore, qui emploie la comparaison, un langage, on pourrait dire presque fleuri, travaillé. Or, le style, ce n'est pas que ça. Le style, c'est aussi savoir raconter une histoire, savoir happer son lecteur, savoir faire de son livre une expérience. Je ne crois pas que si Dick n'avait pas de style, qu'aujourd'hui il serait tout, voilà, il serait oublié comme bien des auteurs de sa génération qui ont disparu dans les limbes de la production de la science-fiction des années 50. Ces romans sont bien écrits, sont agréables à lire, parce que c'est un mélange unique entre science-fiction, mysticisme, religion, autobiographie, d'interrogations métaphysiques. Mais c'est aussi des romans qui racontent des histoires, où il y a des péripéties, de l'aventure, donc toute une petite dose un peu héritée des pulps. Pour revenir à ta question, il y a aussi le problème que nous dit qu'on l'a reçu d'abord en traduction. Des traductions qui, pour certaines, ont souvent prêté à... Bon, qui étaient faites sûrement avec sérieux, mais qui répondaient à des objectifs ou parfois des contraintes éditoriales qui faisaient que certains textes ont été traduits un peu à la machette. Avec des traducteurs qui, parfois, justement, voulaient améliorer ou qui reprenaient, corrigeaient ce qui devait être le style. Ce qui fait que maintenant, on peut qu'applaudir le fait qu'on ait de nouvelles traductions, soit totalement inédites, comme ça a été le cas pour Le Maître du Haut Château, soit des corrections revues et révisées qui laissent tomber quantité de scories justement, qui nuisent à notre contact direct avec le texte. Si vous avez l'occasion, je ne saurais trop vous encourager, même si vous ne lisez pas très très bien l'anglais, de lire simplement une nouvelle de Dick, un texte bref. Et vous verrez que justement, il y a une voix qui se dégage, vraiment une voix qui est reconnaissable à sa petite musique. Et ça, c'est la définition même du style.
Je te propose d'entrer un petit peu dans quelques détails biographiques, peut-être pas des détails justement, de faire un petit survol. Donc, il est né en 1928 pas en Californie, il est né. À Chicago, merci Gilles. Il a vécu toute sa vie en Californie. Et d'ailleurs, la région marque son œuvre, quoi. On peut, alors tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on peut diviser son œuvre, en tout cas son œuvre dans la science-fiction, son œuvre romanesque de science-fiction, en trois parties. C'est un peu schématique, mais il me semble que ça ressort un petit peu. Il a d'abord commencé en écrivant quantité de nouvelles pour les pulps de l'époque, c'est-à-dire les revues bon marché de science-fiction américaine. Puis à partir de son premier roman, L'Autrice solaire, on peut dire qu'il y a quelques 5 ou 6 romans qui vont du mineur au moyen, où il travaille, il se forge une identité d'auteur. On a une deuxième partie de carrière où on a les vrais chefs-d'œuvre. D'ailleurs, tout à l'heure, j'aimerais que tu nous donnes les livres à lire en priorité. Mais on peut citer ben, Le Maître du Haut-Château, Le Dieu venu du Centaure, Ubik. Et puis jusqu'à sans doute Substance mort, je pense qu'il y a un vrai tournant et qui entame la troisième partie de l'œuvre où Dick arrive à mêler ce qu'il avait toujours voulu faire, c'est-à-dire écrire des romans, non pas de SF, mais des romans de littérature générale, à des problématiques qui lui tenaient aussi à cœur, qui elles, appartiennent à la science-fiction. Donc, donc cette troisième partie, c'est une espèce de mélange des genres entre SF et littérature générale, qui est aussi empreinte d'un mysticisme. Tu parlais de son expérience de 1974. Voilà, il y a ces trois parties, j'ai l'impression de... Est-ce que je me trompe?
Pour la première partie, ses premiers romans sont fun.
Oui.
Il ne faut pas oublier que L'Autrice solaire, son premier livre, a été pendant des années, presque même deux décennies, la meilleure vente de Philip K. Dick. Ce qui fait qu'il disait souvent que son premier livre avait été son grand succès et que toute sa carrière, il n'avait fait que descendre. Je pense que très tôt, au contraire, il a commencé à fusionner la science-fiction et la littérature générale pour justement tendre vers quelque chose qui pouvait lui apporter une satisfaction qu'il n'avait pas dans ses écrits de science-fiction.
Faut dire peut-être que il a. J'aime bien quand tu me tiens le micro. Faut dire qu'il a essayé toute sa vie, sans grand succès, de vendre des romans de littérature générale. Il en a vendu qu'un, je crois, de son vivant. Confession d'un barjot. Et c'est sans doute un des grands regrets de sa vie. Je pense qu'il aurait été plus que ravi de voir tous ces. Maintenant, tous ces romans sont publiés. Le dernier qui n'avait pas encore été traduit en français va l'être là cette année. Il a réussi son pari tardivement. Donc, il y avait une frustration aussi.
Une frustration complexe. Imaginez, vous êtes un écrivain, vous voulez faire voilà, cette forme-là. Vous la faites, votre agent l'envoie à différents éditeurs qui font leur métier d'éditeur, c'est-à-dire qu'ils vous envoient des lettres de refus. Mais non. Certains disent, non, finalement, ce texte-là nous intéresse, mais il faudrait faire quelques corrections. Alors Dick, ben, il se remet au travail, il corrige, on renvoie le manuscrit, et on lui dit finalement non. Et comme ça, il y a 3-4 textes qui étaient presque, ils étaient, voilà, presque publiables. Et in fine, on le lui a refusé. Un éditeur américain donc, lui a proposé de lui payer le voyage jusqu'à New York, dans les locaux donc, de la maison d'édition, pour qu'il travaille avec l'éditeur, pour créer le synopsis et le plan d'un manuscrit, afin de le publier. Malheureusement, Dick est agoraphobe, Dick est incapable de voyager, il refuse. À la place, il va faire une longue conversation épistolaire avec l'éditrice, lui faire lire ses romans, il va lui raconter quelques petits mensonges pour essayer de lui plaire, il va lui promettre beaucoup de choses, et il va dire qu'il va faire tout ce qu'elle lui demande, et au final, il écrira le livre qu'il voudra, qui, bien évidemment, sera refusé. Une chose, voilà, il avait cette envie, mais il n'avait pas l'envie de faire des compromissions. Par confession d'un barjot, on lui a proposé de réécrire et de changer des choses. Et lui, contre l'avis de son agent, qui lui disait, ça y est, le contrat est presque signé, tu acceptes de faire les modifications, c'est bon, il a dit, je suis incapable de modifier mon manuscrit. Pour quantité de raisons, il avait écrit à l'époque de sa lune de miel avec sa femme Anne. Ce qui fait que quand on lit le roman, on se dit que le mariage était quand même mal parti. Mais voilà, il était incapable de faire la compromission qui aurait donné voilà, la chance de percer. Un autre éditeur lui avait même donné une avance. Il lui avait versé 500 dollars en lui disant: on prend votre prochain manuscrit. Qui, bien évidemment, voilà, Dick a écrit ce qu'il voulait faire. Il n'était pas capable de faire il écrivait un roman de science-fiction, il le plaçait sans problème. Je vais dire un gros mot, il écrivait un roman de merde en science-fiction, il le plaçait sans problème. Il en a écrit 3 sur 44, on lui pardonne. Mais il avait cette barrière qui fait qu'il ne parvenait pas à percer. Et cette barrière était renforcée par le fait que ben, c'était un écrivain de science-fiction. Donc il était dans le ghetto, dans l'infamie, d'être un écrivain de science-fiction qui avait des velléités de publier des choses, entre guillemets, sérieuses et de bon goût. On parlait de Confession d'un Barjot, il avait demandé à son agent de le placer sous le pseudonyme de Jack Isidore, qui est donc le nom du Barjot du roman. Cela est une énigme. On peut se demander que serait devenu Philippe K. Dick s'il avait vendu un seul roman de littérature générale. Personnellement, je suis convaincu qu'il aurait arrêté d'écrire de la science-fiction et qu'il aurait exploré des voies un petit peu différentes et que, d'une certaine façon, peut-être qu'on aurait eu Thomas Pynchon arriver bien plus tôt. On n'en sait rien. Mais il y a cette blessure profonde chez lui. Cette anecdote, on parlait de son premier roman. Dick travaillait toujours chez un disquaire. Ça a été le seul emploi stable qu'il a eu de toute sa vie. Et donc son premier livre est publié. Il arrive chez le disquaire, il y avait ses collègues, et il jette le livre par terre et il traverse la boutique en le faisant avancer à coups de pied. Les autres sont un petit peu interloqués. Ben oui, parce que c'était publié chez Ace Double. Donc vraiment une collection de science-fiction à très très bon marché. Et à Berkeley, à Californie, dans les années 50, dans les milieux culturels que fréquentait Dick, écrire de la science-fiction était tout bonnement inconcevable. Donc là, voilà, cette fêlure, cette blessure, mais qu'il a travaillé, ce qui fait qu'il a progressivement créé une forme romanesque qui est très particulière à lui, justement, qui mêle science-fiction et forme de littérature générale, littérature blanche, littérature d'art, comme tu veux. On peut penser par exemple au début de Docteur Blood Money, où tout le début du roman, c'est la description d'une petite ville. Avec, voilà, on a toutes les couleurs, toutes les ambiances, on a l'impression, voilà, d'être dans un roman réaliste jusqu'au moment où les choses commencent un petit peu à déraper.
On est dans le survol et on suit un peu ton petit guide à trimballer. Justement, je voudrais qu'il y a un truc intéressant à la fin du roman. Tu as fait une sélection du roman de ton livre. Tu as fait une sélection de romans qui te paraissent incontournables. Donc, je suis assez d'accord et ça me paraît intéressant peut-être de les citer. Donc, tu parles du Maître du Haut-Château, de Docteur Blood Money, de Glissement de temps sur Mars, du Dieu venu du Centaure, des androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui est plus connu sous le nom de Blade Runner, de Ubik évidemment, de Couler mes larmes, dit le policier, qui est peut-être beaucoup moins connu, de Substance mort, que vous connaissez aussi sous le titre de E Scanner Darkly, ça a été adapté au cinéma sous ce titre, qui est le titre original, du diptyque Radio Libre Album Siva, et enfin La Transmigration de Timothy Archer. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de ces romans ou de deux ou trois qui te paraissent. Moi, j'aimerais qu'on parle de Couler mes larmes, dit le policier, qui n'est pas du tout connu et qui est un chef-d'œuvre et qui n'est pas forcément cité parmi les chefs-d'œuvre de Dick.
Juste pour que le premier roman de Philippe K. Dick que j'ai lu, c'est Le Zappeur de monde. S'il y en a qui connaissent, voilà, quand on parlait de livres infâmes tout à l'heure, c'en est. Et bon. Donc tout ça pour dire qu'on survit au
La
mauvais roman
traduction
de...
était infâme aussi, il manquait des bouts.
Dans le titre français, Dédalus Man. Dédalus Man. Mon deuxième roman, Ubique. Et là, j'ai compris. Couler mes larmes, dit le policier, est un livre unique, déjà par l'édition française, vu que la traduction française dont on dispose est unique au monde. Le manuscrit qui a servi au traducteur n'est pas le manuscrit qui a été publié aux États-Unis. Donc il y a eu, voilà, quelque part un problème. Ce qui fait que l'édition française comporte près d'un chapitre en plus, hein, le chapitre 12, si je me souviens bien, où il y a justement toute une évocation des différentes formes de l'amour possible, enfin, chez l'être humain. Et parmi toutes ces différentes formes d'amour, il y a l'amour que peut ressentir le lecteur quand il lit un livre et qu'il ressent quelque chose pour l'auteur. Couler mes larmes, dit le policier, est un roman complexe pour Philippe K. Dick, vu que c'est un de ceux qu'il a mis le plus longtemps à écrire, vu qu'il se situe pile poil dans une des périodes les plus sombres de sa vie, où il a posé le manuscrit, et quand il en a été capable, il l'a repris quelques années plus tard pour l'achever extrêmement rapidement. Le roman a cela de particulier d'être extrêmement simple à appréhender dans son intrigue. Vu que c'est le personnage de Jason Tavernard, qui est un animateur de show télévisé, qui un jour se réveille dans une chambre d'hôtel borgne et plus personne ne sait qui il est, personne ne se souvient de lui. Et c'est un roman très particulier dans l'œuvre de Dick, parce qu'il va y avoir toute une série d'explorations très différentes de tout ce qu'on peut lire chez lui. Comme disait Robert Heinlein, il n'y a pas de héros chez Philippe K. Dick, il n'y a que des comportements héroïques. Et le personnage de Couler mes larmes, dit le policier, est un peu l'exception. Lui, ça va être un héros qui veut acquérir quelque chose, il veut obtenir quelque chose, il se bat pour retrouver son statut. Et cette exception-là, bah, fait que pour moi, ce livre montre que Dick continue à explorer des choses nouvelles, il cherche à ce stade de sa carrière à briser un peu les moules qu'il a pu établir, à savoir les réalités perturbées, l'usage de la drogue, etc. On retrouve tout cela dans Couler mes larmes, mais avec un pas de côté, une petite fêlure qui fait que le livre devient captivant. Ne serait-ce que par le personnage de Félix Buckman, le chef de la police, qui vit une relation incestueuse avec sa sœur sadomasochiste, qui se promène en tenue de cuir et absorbant quantité de drogue. Qui est un personnage, donc c'est lui le policier du titre, hein, c'est lui qui va pleurer, et qui est absolument un personnage, voilà, exceptionnel. Parce qu'on n'est plus dans le méchant à la Palmer Eldritch dans Le Dieu venu du Centaure, ou alors Jory dans Ubique, donc le grand méchant, mais on est un personnage qui est totalement en demi-teinte. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre le blanc et le noir, moi souvent je préfère qu'on me mène un peu vers le gris clair ou le gris foncé, histoire d'avoir plus de subtilité.
C'est intéressant ce que tu dis sur les personnages, parce que toute l'œuvre de Dick, à part peut-être, alors ce roman-là n'est pas construit sur des schémas classiques de récits d'aventure, comme peut l'être parfois la science-fiction. Et les personnages, en effet, il n'y a jamais de héros, il n'y a jamais un seul personnage point de vue, c'est toujours une série de personnages que l'on suit à tour de rôle, qui se mélangent ou qui ne se mélangent pas. D'ailleurs, dans La Maître du Château, ils se croisent à peine tous, et voilà, et peu importe.
Juste une parenthèse, oui, pour ce qu'on disait sur le style. Donc peut-être que Dick ne faisait pas de belles phrases, mais c'était un maître du point de vue. Hein, vous connaissez, si vous avez des souvenirs de lycée, les trois points de vue, interne, externe, omniscient, que Dick avait découvert et qu'il avait travaillé, mais de manière extrêmement consciente et volontaire, par rapport à tout ce que ça pouvait lui permettre dans la construction d'une intrigue. Ce qui fait que quand il écrit ses romans, passant d'un point de vue à l'autre, en ajoutant du discours indirect libre, ce qui fait qu'on ne sait plus trop des fois si c'est le narrateur qui parle, si nous sommes dans les pensées du personnage, il nous balade. Et cela fait parfum, voilà. Cela fait participe aussi du style.
Non, il y a des. On peut revenir sur le maître du haut château, qui est un exemple particulier de sa technique, de son adaptabilité. L'idée du maître du haut château, vous le savez peut-être, c'est que les Allemands et les Japonais ont gagné la guerre. Et toute l'intrigue, ou l'absence d'intrigue, se situe en Californie, dans les années 60. Une Californie dominée par les Japonais. Et à partir de là, Dick a décidé d'écrire son roman comme si, il avait été écrit par un romancier vivant, un romancier américain vivant sous domination japonaise, donc influencé par la culture japonaise. Et donc il a essayé de reprendre la technique des romans japonais des années 60, qui étaient donc ses contemporains. Et ce qui a fait un espèce de schisme à ce moment-là dans son écriture. Il avait vraiment utilisé les outils de son récit, enfin de l'univers de son récit, pour les adapter à son propre texte. Il voulait fondre son texte, je ne sais pas si je m'exprime bien, il voulait fondre son texte dans l'univers auquel le texte aurait dû appartenir. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très fort. Après, c'est aussi il y avait aussi un certain systématisme chez lui dans l'utilisation des personnages et de ses points de vue. Puisqu'on avait. On suivait toujours, par exemple, un petit personnage d'artisan en général, de bricolo, puis après son patron, au deuxième chapitre, puis après quelqu'un de plus de godlike, quoi, une sorte de divinité. Ouais. Tiens, je suis bilingue. Oui, quelqu'un de bien au-dessus des humains, dont un milliardaire ou. Voilà. Ou Palmer Eldritch, par exemple. Et donc il y avait toujours ces schémas-là qui marchaient très bien et qui lui permettraient d'écrire des livres très vite avec les idées qu'il avait, mais qui étaient un peu systématiques et chaque fois qu'il les brisait, ça devenait d'autant plus intéressant. Il y a des thématiques aussi qui revenaient souvent, notamment j'aimerais que tu me dises quelques mots de la fille aux cheveux noirs par exemple.
Alors là, c'est un gros morceau. Donc la fille aux cheveux noirs, telle qu'on l'appelle en français, c'est à la fois quelqu'un qui c'est un être de papier, donc c'est un personnage de fiction récurrent dans les livres de Philip K. Dick, donc une femme aux cheveux noirs, généralement méchante, castratrice, destructrice, et dont le héros est follement amoureux. Et elle va le détruire un petit peu plus. Ça, c'est pour l'être de papier, hein, en schématisant affreusement. La fille aux cheveux noirs, c'est aussi un type de femme qui plaisait particulièrement à Philip K. Dick, que ce soit pour les épouser ou simplement pour que ce soit des femmes à qui il faisait la cour à beaucoup de femmes. Il avait un besoin affectif délirant et c'était c'était un besoin chez lui. À la fois de plaire, de séduire et de se sentir aimé. Et le troisième, enfin plutôt la troisième, c'est la fille aux cheveux noirs, c'est celle qui n'existe pas parce qu'elle est morte, c'est sa sœur jumelle Jane, qui est décédée peu de temps après la naissance des jumeaux. Et pendant toute sa vie, la figure de Jane va accompagner Dick, les personnages doubles, les personnages mutants. À base de jumeaux sont extrêmement nombreux. C'est à la fois voilà, c'est la personne que Dick aurait voulu connaître. D'une certaine façon, quand à la naissance de sa fille, sa première, je crois, il a déclaré, comme le raconte son ex-femme, maintenant, ma sœur est compensée. Enfin, pas récompensé, compensé. Parce qu'il a grandi avec sa mère qui n'arrêtait pas de lui raconter encore et encore comment la petite fille était morte de malnutrition. et comment lui-même avait failli mourir et n'avait survécu que grâce à une hospitalisation précoce. Donc il a grandi avec ce fantôme. N'oubliez pas que quand la petite fille a été enterrée, les parents étaient tellement persuadés que Philippe ne survivrait pas qu'ils ont fait creuser une tombe double et qu'il a vécu toute sa vie avec avec la tombe de sa sœur, où il y avait marqué Jane, à 1928, et il y avait juste à côté Philippe. Sauf qu'on n'avait pas encore mis les dates. Donc je sais, rien que grandir et vivre avec l'idée que sa tombe nous attend, même si elle nous attend tous, mais au moins la mienne, il n'y a pas mon nom dessus. Donc il y a cette figure complexe, thématique, qui, là tu parlais des romans, dans son dernier livre, La Transmigration de Timothy Archer, Ursula K. Le Guin avait reproché vertement à Dick de ne pas savoir écrire un personnage de femme. Ce qui est assez vrai, tant elles sont souvent caricaturales, il s'en sert pour régler des comptes avec ses ex-femmes. Mais ça, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Donc voilà, lui reproche ça. Et dans son dernier livre, le personnage féminin est un personnage sublime, une création littéraire extraordinaire, La Transmigration de Timothy Archer. Un roman écrit à la première personne, ce qui est rare chez Dick, vu que justement lui privilégiait la technique du changement de point de vue, il passait de personnage en personnage. Ici, il garde le même. Et il nourrit ce personnage féminin d'une psychologie riche, subtile, assez douce amère, et en même temps, il injecte énormément de caractère biographique, ce qui fait qu'il crée une espèce de son pendant féminin. Et c'est, voilà, son dernier livre est un dernier chef-d'œuvre, ce qui montre d'une certaine façon sa capacité à se réinventer et à briser les choses, à sortir, parfois même dans la douleur, parce que le livre a été difficile à écrire, à sortir de ce qu'il pouvait, enfin, de ce que l'on pouvait attendre de lui, ou de ce que voilà, de ce que le texte exigeait de lui.
Je voudrais qu'on aborde les événements de mars 74 et puis l'exégèse après. Tu peux peut-être rappeler, t'es plus au point que moi sur les événements.
Surtout, c'est une histoire que vous devez quand même connaître. Donc, Philippe Cadic se fait opérer des dents. Il a affreusement mal. Il passe une commande d'analgésique qu'on lui livre. Et la femme aux cheveux noirs qui est à la porte et qui lui apporte ses médicaments porte un collier avec un poisson. Et à ce moment-là, comme dans une espèce de lumière biblique, le collier est frappé par un éclat lumineux, et Dick vit un instant, une épiphanie, une révélation. Et à partir de là, pendant les mois de février et mars 1974, il entre dans un cycle où il va faire des rêves, des hallucinations visuelles, des hallucinations auditives, qui vont aller entre le pur enchantement psychédélique à des révélations sur la réalité des choses, à savoir que nous vivrions encore au 1er siècle après Jésus-Christ, que l'Empire romain n'a jamais pris fin, et qu'en fin de compte, toutes les informations qu'il a reçues lui ont été envoyées par une espèce d'intelligence supérieure, donc le satellite Siva.
Ou une sibylle, ou, enfin,
Ou,
ça change tous
ou, ou,
les...
voilà, là, bon, voilà. Là, on fait très très simple. 2 mois. Pendant cette période, bon, il entend des messages menaçants à la radio. Il a des...
Radio éteinte,
Radio
évidemment.
éteinte. Enfin, tout ce que je vous dis est confirmé par sa dernière femme, qui était présente au moment des... Donc, je ne vous dis pas qu'il lui a bien dit qu'il avait entendu des choses. Donc, jusqu'au moment où il est tranquillement dans son salon en train d'écouter les Beatles. C'est Strawberry Fields, si je me souviens bien. Là, sur son casque, sur sa chaîne audio. Et il est frappé par un espèce de rayon lumineux rose qui lui transmet une somme d'informations considérables, notamment l'une que son fils est atteint d'une malformation congénitale gravissime. Il dit à sa femme, Christopher est atteint d'une malformation congénitale, il faut le mener à l'hôpital. Elle lui dit, ça va pas. Il insiste, ils vont à l'hôpital et le médecin confirme le diagnostic. Voilà, moi je m'arrête là, après, parce que Dick, ma foi, il prend tout ça. Et par bien des façons, il le prend en pleine figure. Et à cette même époque, dans sa correspondance et dans sa vie, il va commencer à travailler sur ce qu'il a appelé, plus tard, l'exégèse. À sa mort, l'exégèse, c'est à peu près grand comme ça. 8000 pages. 8000 pages de notes qu'il prenait dès qu'il avait une occasion. Avec comme une seule obsession, comprendre. Que s'est-il passé? Est-ce que je suis fou? Donc il envisage, il écrit des pages pour essayer de comprendre sa folie. Est-ce que... Alors, bon, après, il compulsait ces tomes de l'Encyclopédia Britannica. Il compulsait ses précis de philosophie. Il trouvait des textes.
Il relisait
ses précédents romans, notamment bon, « Couler mes larmes ». Pour essayer de comprendre, est-ce que j'ai eu des phénomènes de préscience, etc., dans mes livres. Et il passait d'une théorie à l'autre. 8000 pages. Qui, à sa mort, ont passé quelque temps dans le garage de son exécuteur testamentaire, avant aujourd'hui d'être enfin publié dans... Enfin, une sélection est publiée dans un gros volume aux États-Unis et il sortira traduit en français l'année prochaine. Et c'est enfin voilà, lire l'exégèse aujourd'hui, c'est un grand 8 intellectuel permanent, vu que, je vous le répète, il ne l'écrivait pas pour être publié, il l'écrivait vraiment, c'est, enfin, on est dans le registre du journal intime, et lire cela aujourd'hui, c'est à la fois être donc dans son intimité, d'être par moments totalement largué, parce que il aborde des concepts et il multiplie, il juxtapose et il additionne les concepts pour les abandonner au bout de trois paragraphes. Donc c'est voilà, un grand 8 intellectuel, fascinant, extraordinaire. Donc je vous le répète, hein, pas de structure. Une forme qui est simplement en perpétuelle expansion, hein, au rythme de la pensée. Il a arrêté plusieurs fois de l'écrire, mais il ne tenait pas. Hein. La fois où il l'a appelé exégèse, il a pris une feuille de papier, il a écrit son texte de couverture, il l'a posé, il l'a rangé, 15 jours plus tard, il l'a ressorti, il recommençait à écrire, il recommençait à se poser des questions. Et puis après, il pouvait téléphoner à ses amis à 3h du matin en leur disant « Écoute, j'ai une nouvelle théorie ». Puis ça a continué.
Faut dire que il avait déjà commencé c'est quelqu'un qui, je pense, aimait beaucoup échafauder des théories et réfléchir sur ce qui lui arrivait. Il avait été victime d'un cambriolage, alors c'est en quelle année? En 69 ou en 70?
71,
non, je sais plus. Bref, il avait été victime d'un cambriolage et il avait une armoire fermée par des...
Mais non, mais encore mieux. Encore mieux. Parce qu'il il venait de divorcer, il vivait dans une maison ouverte aux quatre vents.
La maison de Scanner Darkly.
Voilà, si vous avez lu ou si vous avez vu Scanner Darkly, c'est cette maison-là. Une espèce de repère de bikers, de fugueurs, de drogués, de personnes voilà, qui passaient là. Et il avait son armoire blindée dans laquelle il rangeait toutes les choses précieuses, à savoir ses contrats, ses manuscrits et ses disques. Et il a une préscience.
Tu fais tomber la pluie.
Mais c'est un signe. Il a une préscience, il se dit quelque chose va arriver. Et voilà, il est en train de travailler sur le manuscrit de Couler mes larmes, dit le policier. Et ce manuscrit, il le sort de l'armoire blindée pour l'apporter à son avocat en lui disant « Tu le gardes pour moi ». Et quelques temps plus tard, il rentre chez lui, blâme. L'armoire a semble-t-il été explosée avec du C4, un explosif quelconque. La police a mené une enquête rapide. Mais aller dire à un policier dans les années 70 qu'il y a eu un cambriolage dans une maison de drogués, je pense pas que l'enquête va durer...
En plein milieu d'un quartier noir, mal famé.
Bon, l'enquête a dû durer 10 minutes. Mais bon, pour Philippe Cadic, c'était une preuve supplémentaire d'un complot gouvernemental. Il a accumulé toutes les théories possibles pour expliquer justement qu'est-ce qui a pu se passer. Donc, est-ce que le cambriolage a été le fait de cambrioleurs? Est-ce que c'est un complot gouvernemental mis en place par l'administration Nixon? Ou est-ce même, et c'est là que cela devient totalement fascinant, lui-même qui se serait cambriolé, sauf que comme il est fou, il n'en a pas le souvenir.
C'est ma théorie préférée, moi.
Mais ce qui est fascinant, c'est que tout ce matériau-là, qui, dans la vie réelle, a dû être la source de souffrances physiques, émotionnelles, profondes chez lui, il l'a utilisé pour en faire de la littérature. Il en a fait de l'art. Cette histoire-là, on va la retrouver agglomérée avec d'autres dans Substance Mort. L'exégèse, qui est une réflexion sur qu'est-ce que c'est que le tout. Il en a fait des romans. Il y a eu Radio Libre Albemuth, qu'il a totalement réécrit pour faire Valis, qui est extrêmement théorique. Il a fait sa suite Invasion Divine, qui cette fois essaye de réintroduire un peu plus d'événements, d'actions, de péripéties. Et jusqu'à la transmigration de Timothy Archer, qui est cette fois l'état final, parce qu'on est dans l'équilibre harmonieux entre l'interrogation métaphysique, religieuse, et le romanesque. Donc il y a toujours ce matériau qu'il arrive à reprendre et à ne pas rester prisonnier de... Tout à l'heure, tu me demandais s'il était fou. La meilleure preuve qu'il ne l'était pas, c'est qu'il en faisait une œuvre d'art. Qu'il avait conscience d'en faire une œuvre. C'est beau, c'est de moi.
On pourrait encore parler longtemps, mais j'aimerais passer la parole au public si vous avez des questions. Voilà. Oui.
Une question, c'est. Moi, j'ai connu Philippe Cadic au départ par les adaptations au cinéma. Je trouve qu'il a été énormément adapté. Pourquoi est-ce qu'il est autant adapté? Est-ce qu'il y a eu des raisons dans son œuvre?
Trois raisons pour qu'il soit adapté. La première, c'est que c'est financièrement intéressant. On peut gagner de l'argent. Le cinéma est une industrie qui vise à faire un profit. Donc, même si Blade Runner avait été un flop terrible à sa sortie, aujourd'hui, sortir un film avec le nom de Philippe Cadic vous permet de mettre par l'auteur de Blade Runner sur l'affiche et donc de générer un profit. Vous n'allez pas me dire que si on fait un remake de Total Recall, s'il y a des considérations artistiques derrière. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est qu'arrivent aussi des gens qui ont envie de faire des films, qui ont envie de faire des choses, qui ont des choses à dire, qui ont peut-être ludiques quand ils étaient plus jeunes, et qui, arrivés à l'âge où ils sont en mesure eux-mêmes de produire, restituent leur source ou retournent vers ce qui a pu les toucher ou les émouvoir. Linklater, le réalisateur de Scanner Darkly, c'est un fou furieux de Philippe Cadic. Dans un de ses films un peu arty, Waking Life, qui est fait avec la même technologie de mélanger prise de vue réelle et dessin, il y a toute une longue séquence bavarde où il joue au flipper, donc le réalisateur apparaît dans son propre film et parle de Philip K. Dick avec son personnage principal. Ça, c'était avant qu'il se mette à faire des comédies avec Jack Black. Joe Black.
Jack Black.
Jack Black, School of Rock.
Très bien.
Ça, c'est donc la deuxième raison. Et la troisième, c'est que une histoire de Philip K. Dick se résume aisément. Si je, on va prendre un classique de la SF. Je veux adapter Fondation, Isaac Asimov. Allez faire le pitch, comme ils disent, en deux phrases. Voilà. Tandis que c'est l'histoire d'un bonhomme qui travaille sur Mars, qui se fait implanter des souvenirs virtuels, qui révèle une personnalité secondaire. Ah, là, ça marche. Donc, il y a cette efficacité-là. Ce qui fait qu'on va avoir d'autres. Il y a 3-4 films dans les tuyaux là, qui vont arriver. Il y a les nouvelles de Dick. Il y a un gros procès aux États-Unis qui va avoir lieu autour de l'agence, là, le dernier film adapté, vu que la nouvelle serait ou non dans le domaine public. Si elle est dans le domaine public, ça veut dire qu'il y a un petit corpus d'une quinzaine de nouvelles qui sont dans le domaine public. Ce qui veut dire que n'importe qui peut le prendre, le texte, pour en faire ce qu'il veut. Donc je pense que voilà, ça risque de se multiplier. Tant qu'on est dans les adaptations, donc Ridley Scott produit l'adaptation télé du Maître du Haut-Château pour la BBC. Ridley Scott parle beaucoup de faire un Blade Runner 2. Ridley Scott a produit aussi, enfin il a un projet sur plus long terme, de faire une série sur Internet autour de Philip K. Dick. Couler mes larmes, dit le policier, revient sur, enfin est prévu. Il y a eu pendant longtemps un projet qui a été porté par Oliver Stone avec Tom Cruise dans le rôle titre. Qu'est-ce que j'oublie ? Il y a le Disney qui veut adapter Le Roi des Elfes en dessin animé, ce qui est la seule nouvelle de fantasy de Philip K. Dick. Projet assez bizarre parce que c'est quand même une nouvelle très sombre. Enfin, tout ce qu'on en sait, c'est que l'ensemble de la production a été virée par Disney. Donc on ne sait pas si ce sont de nouvelles personnes qui s'occupent du film ou si les quelques dessins qui existent sur Internet seront les seules traces que l'on a. Donc voilà, là pour les 10 ans à venir, on va avoir quantité de films.
Comment c'est venu ce rapport à la gnose, hein, qui explique que le monde n'est pas créé par Dieu, mais par un méchant des murs, je me trompe dans le texte. Alors comment c'est venu cet intérêt? Et voilà, est-ce qu'il a été Jung et comment il est arrivé au gnose?
Je pense qu'il a découvert Jung à l'époque où il écrivait Le Maître du Haut-Château, là, c'est sa femme Anne qui l'a. Je pense qu'il a fait découvrir. Il a découvert le Yiking aussi en même temps dans la traduction, pas de Jung, mais d'un de ses disciples, dont j'ai oublié le nom. Et quant à la gnose, je crois que ça a été assez progressif, et notamment sa rencontre avec Jim Pike qui l'a amené là-dedans, et toutes les recherches que Pike faisait sur les manuscrits de la Mer Morte aussi. Non, c'est ça?
C'est une montagne, hein, Philip K. Dick et la gnose. Parce qu'il y a la part des choses. Dick travaillait énormément. Il lisait énormément. Il se souvenait d'énormément de choses. Lire ses livres, on a constamment des références, des citations, parfois des clins d'œil. Mais à chaque fois, il y a une posture qui est assez exigeante pour le lecteur, parce que Dick ne va pas donner sa source en disant voilà, il y a ça chez lui, c'était telle théorie chez tel philosophe, principalement des Allemands, qu'il va plutôt discuter avec la source. Quand il évoque la gnose, ce n'est pas tant pour expliquer au lecteur, dans un mouvement de générosité, de lui faire un petit précis pour qu'il comprenne ce dont il s'agit. On a la compréhension de Dick à ce moment-là. Ses propres questions concernant ses lectures et son interrogation. Je pense que la rencontre entre Dick et la gnose était inévitable. D'ailleurs, je m'étonne que dans les événements de 1974, Dick pensait être habité par un des premiers chrétiens martyrs, donc un gnostique, hein, qui s'appelait Thomas. Ça aurait été rigolo qu'il choisisse plutôt Simon le Mage, qui était un des grands gnostiques. Donc, il y a sur Internet tout un site où ils passent leur temps justement à étudier ces questions-là. Je trouve ça extraordinairement complexe parce que la gnose, enfin, on dit la gnose, hein, il faudrait dire les gnoses, tellement il est difficile de trouver une explication unique qui permettrait d'expliquer le tout. Donc, je pense que quand l'exégèse sortira, vous devriez la lire, hein, vous y trouverez des passages particulièrement intéressants. Moi, je les lis un peu parfois comme de la poésie. Hein, je ne comprends pas tout, mais je trouve ça beau.
Une autre question ?
Oui. Oui, moi, je vais poser une question toute simple. Hein. Est-ce que vous considérez, alors je vous entends, pour moi, non, mais est-ce que vous considérez donc Philip K. Dick comme un auteur donc, de science-fiction ? Je vous pose la question parce que lui-même, je ne crois pas que lui-même se considérait comme tel. Et donc dans la liste aussi donc, de livres que vous conseillez donc, de lire, je crois qu'il y a aussi les conférences qu'il a pu donner, notamment, qui sont importantes, sans à lire, où il rappelle donc, effectivement, parce qu'il y a un problème là-dessus. Hein. Moi, il y a des bouquins comme, par exemple, Dr. Blood Money, je ne le considère pas comme un bouquin de science-fiction. Il peut, non, parce que quand on va voir des robots, je ne sais pas, on peut se projeter dans cet univers, mais ce n'est pas forcément. Donc, est-ce que pour vous, c'est un bouquin de science-fiction ?
Pour moi, oui. Oui, oui. Et je pense que lui aussi, le revendiquer d'une certaine manière. Ça l'embêtait pas d'écrire de la science-fiction, ça l'embêtait de pas arriver à publier de la littérature générale.
Mais dans ce cas, il faudrait peut-être définir aussi ce que c'est que la science-fiction.
Ah. Ah. Bon.
Ah, en tout cas, quand ça se passe dans le futur et que...
Bah, pourquoi
bah, non. Parce que
c'est juste une question de lieu, de...
Si on fait la part des choses entre le livre au moment de sa parution... Et le livre, au moment de notre réception, au XXIe siècle, au moment de sa parution, Blood Money, c'est un roman de science-fiction.
Ouais.
Voilà. Avec donc, un titre bien racoleur qui rappelle, enfin, qui a été imposé par l'éditeur, qui fait un clin d'œil à Dr. Folamour de Kubrick. Voilà, vendu comme de la SF pure. Mais aujourd'hui, nous, ben, nous sommes un peu les enfants désabusés du postmodernisme.
C'est beau ça aussi, les enfants des albusines du postmodernisme, bravo.
Mais non, mais on est revenu de tout ça. Maintenant, tout est référence, tout est clin d'œil, tout est second degré. Un peu jusqu'à l'asphyxie. Donc maintenant, quand on lit Blood Money, on peut y voir justement tout un dosage d'éléments. Donc c'est pour ça que votre question est ambiguë, parce qu'il n'y a pas de réponse définitive. Pour moi, Philip K. Dick est un des plus grands écrivains américains du XXe siècle, qui a écrit de la science-fiction. Point. Je ne dirais pas que c'est un des plus grands écrivains de science-fiction, enfin, si on doit être vraiment dans la nuance. Mais un des plus grands écrivains.
Une autre question ? Ouais.
J'en sais rien.
Je crois aussi que c'est un écrivain qui est né après la Première Guerre mondiale, qui a vécu pendant la Deuxième, qui a vécu pendant la Guerre froide. Donc l'idée qu'il y ait un organisme qui supplante le tout et qui soit plus ou moins totalitaire, menaçant, et contre lequel il faille être en lutte. Voilà.
Ouais, l'idée d'un gouvernement mondial était peut-être plus à la mode à l'époque que maintenant, où elle est complètement fantasmagorique.
Tant qu'il n'y a pas un président pour l'Europe, hein, moi je... Quelqu'un d'autre ?
Oui, vous avez parlé tout à l'heure de couler les larmes des policiers, en parlant par rapport à, aux deux personnages, donc parler par rapport à cette reprise de ce schéma traditionnel avec le héros et l'antagoniste qui est le policier, mais que les deux sont, on est plutôt en très clair avec les Français. Voilà. Ce qui m'a frappé en lisant Couler les larmes des policiers, c'est que, et ça s'est lié par rapport à cette question du point de vue, je trouve que c'est un des meilleurs romans de Philip K. Dick sur le point de vue justement, parce que pendant les deux tiers du roman, au moins, ou les trois quarts, on est avec uniquement Jason Taverner, à part des toutes petites incursions avec, donc son antagoniste, donc son opposant Felix Buchmann, le policier. Mais d'une certaine manière, on a envie de sortir de ce personnage Jason Taverner. Parce que je sais que le prochain débat, si vous avez parlé comme, un peu comme dans un héros, même s'il n'est pas parfait. Et c'est vrai que c'est quand même un des personnages les plus humbles, humaines, les plus.
Il fait de la télévision,
plus,
hein.
Non, c'est un des personnages les plus bêtes vraiment qu'il ait écrit, franchement. Parce qu'il rencontre toutes ces femmes, toutes ces rencontres qu'il fait, des gens qui ont beaucoup de choses à lui apporter, et lui-même ne veut rien recevoir, parce qu'il a peur de perdre, il veut uniquement gagner sa position et ne pas la quitter et être sûr de son confort même personnel, affectif et matériel. Et les deux sont très très liés pour ce personnage. Et finalement, ce qui est fascinant, je trouve, dans ce roman, par rapport au policier, c'est que Jason Taverner reçoit beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui viennent de toutes ces rencontres, et finalement, lui n'en tire rien. Finalement, c'est le policier lui-même qui, à la fin, pleure par rapport à tout ce qui a été vécu par le personnage. Et finalement, c'est lui qui devient le dépositaire de tout ce voyage, de toutes ces émotions qui ont été reçus par Jason Taverner. Et du coup, et d'où l'émotion à la fin de Couler mes larmes des policiers, donc on ne s'attend pas du tout à ce qu'un tel personnage puisse pleurer, ce policier. Justement. Et en plus, dans la scène, bon, je ne raconte pas la scène, mais la scène finale où justement il pleure, c'est une scène qui est impensable par rapport au personnage en lui-même, qui est magnifique. Enfin, c'était juste une remarque que je voulais faire par rapport à ça, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est très important. Je trouve que par rapport à cette question justement du point de vue, il y a toute une idée de, à nouveau, où on glisse d'un point de vue à l'autre, et dans Couler mes larmes des policiers, on glisse d'une réalité à une autre, grâce à l'empathie qui enfin peut s'accomplir à la fin.
Ouais, ces passages de réalité à d'autres, il y a au moins deux autres romans où c'est vraiment très prégnant. L'œil dans le ciel, et le deuxième, j'oublie le titre, mais où on passe vraiment de les univers personnels de personnages, on les visite les uns après les autres. Quel est l'autre ? J'ai oublié, mais je retrouve.
Oui, je sais pas où tu veux partir.
Mais bon, voilà.
Je suis totalement d'accord. On a un peu le même phénomène de rupture si on pense par exemple aux 80 premières pages du Bic. Lire les 80 premières pages du Bic, c'est un catalogue d'une caricature de la science-fiction telle que Philip K. Dick la faisait. Toute une quincaillerie à base de fusées, de femmes qui portent des tenues en plastique transparente.
De pouvoirs psychiques,
de guerre de mutants,
de base lunaire, enfin tous les clichés qu'on peut imaginer, ils y sont quoi.
Jusqu'à donc la page, enfin j'ai les 80 premières pages, et la bombe explosa, retour à la ligne, espace, nouveau paragraphe sans alinéa. Il n'y a pas d'alinéa. Et on a changé de réalité. Mais ça, on le réalise que 150 pages plus tard. Je suis désolé, je vous ai gâché la page 81. Mais voilà. Donc, non, mais pour montrer la subtilité du mouvement, et que quelque part, le fait que Dick perdure, que ce bonhomme qui publiait des romans à 3 francs 6 sous... Dans les années 60, qui a été idolâtré comme étant un militant trotskiste révolutionnaire par une certaine critique en France dans les années 70, qui a été redécouvert dans les années 80 et qui maintenant arrive comme étant le premier auteur de science-fiction à qui l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis vient de consacrer 3 volumes. Voilà, enfin, moi, le jour où on publie Jules Verne dans la Pléiade, on se dira qu'il y aura un grand pas de fait en avant pour les genres de l'imaginaire. Donc il y a un bouleversement total de la figure de cet écrivain, de sa reconnaissance et de la reconnaissance purement littéraire de son importance en tant que figure artistique majeure.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Ou est-ce que, enfin, j'en vois de partout, mais est-ce que c'est des références plutôt à cette science-fiction d'époque ou c'est vraiment du Kadic ?
Il y a les deux.
Monsieur a dit Kadic.
Ouais.
Amande. Non,
vous
sortez d'ici si vous voulez, mais on l'appelle Philippe, Phil, Dick, si vous êtes familier, PKD, mais pas Kadic. Son nom, c'était Philippe Kindred Dick. Il avait 2 prénoms, Philippe Kindred. Kindred, c'était le nom de jeune fille de sa mère. Donc, Kadic, on voit ça qu'en France. C'est. Voilà. Si vous voyez quelqu'un qui. Ou si vous entendez, ou si vous lisez, envoyez des lettres enflammées. Non. Amende. Non, mais par contre, je suis totalement d'accord avec vous. La diffusion, la dilution des thèmes et des idées est considérable. Mais c'est propre, je serais tenté. Voilà, à toutes. Quand on voit Inception, très beau titre français que je ne comprends pas, on se dit, tiens, il adapte du Philip K. Dick, sauf que ce n'est pas du Philip K. Dick. Voilà.
Il y a beaucoup de présents.
Matrix.
Vraiment, ces gens ont puisé dans le.
Oui,
sens.
Oui. Oui.
C'est simplement.
Oui, oui, oui. Bien,
bien.
Il y a les deux.
Oui. C'est quoi le film avec Jim Carrey ?
The Truman Show.
Voilà, Truman Show, qui est un plagiat de Philip K. Dick. Voilà, sauf qu'ils n'ont pas payé les droits pour. Tous les plus grands ont voulu adapter Philip K. Dick. Terry Williams a monté 3 voire 4 projets pour adapter Philip K. Dick. Il n'a jamais réussi à aller jusqu'au financement. Quand même, à peu près 99% des films qu'il a voulu faire.
Cronenberg.
Cronenberg a découvert Philip K. Dick quand il a été embauché pour travailler sur le scénario de Total Recall. Il ne le connaissait absolument pas, il le découvre, il prend ça en pleine tête. Il fait 15 versions du scénario avant d'être viré. Et d'ailleurs, est resté dans le scénario final. Le chef de la résistance dans Total Recall avec le mutant dans l'abdomen. Ça, c'est une idée de Cronenberg. Mais après, il fera Existence.
Excuse-moi, déjà avant même Total Recall, il y a la Vidéodrome, qui pour moi, personnellement, est un des meilleurs films dickiens, qui n'est pas officiellement dickien, alors que lui-même disait qu'il ne connaissait pas Kadic, mais bon, il lisait les mêmes revues dans lesquelles Philip K. Dick écrivait.
Voilà, une communauté d'esprit.
Voilà, c'est partie de ces choses qu'il a dû
C'est de l'influence par Rouman, je pense. Je pense qu'il était influencé plus par les cyberpunk et qui avaient eux-mêmes été influencés par Dick. Et voilà. Une autre question, peut-être. Ouais.
Les films que vous avez cités.
Oui.
Comment vous avez trouvé, personnellement, les deux
Lesquels alors
les films inspirés de Dick.
Bah, on est à peu près d'accord que Blade Runner est un chef-d'œuvre.
Oui, mais c'est une mauvaise adaptation.
Voilà, c'est pas une bonne adaptation, mais c'est un super film quand même. Qu'est-ce que...
Oui, mais j'ai vu Radio Libre Albemuth. Donc, qui est la dernière adaptation en date, qui a été tournée pour à peu près le budget de 2 secondes d'Avatar. donc un tout petit film, donc Radio Libre Albemuth, je vous rappelle qu'un des personnages s'appelle Philip K. Dick, et que ça raconte l'histoire du rayon rose, etc. Dans une Amérique uchronique dirigée par le président Ferris F. Frémont. Ferris F. Frémont, FFF, le F.
C'est la Fédération française de funk.
666, le F étant la sixième lettre, 666, l'antéchrist, voilà. Donc j'ai vu ce petit film qui est absolument extraordinaire. Alors zéro budget, hein. Là il faut accepter de voir un film où il n'y a pas une perfection dans l'éclairage, pas une perfection dans le jeu des acteurs, des trucages, voilà. Mais par contre, dans l'intelligence de l'adaptation, là c'est extraordinaire. Le film fait la tournée des festivals en France. J'ai proposé à plusieurs festivals de le programmer, personne n'a voulu. Ensuite, les meilleures adaptations à mon goût. Donc,
Minority Report.
Minority Report, qui est très souvent critiqué, pourtant c'est un monument. J'adore Total Recall. Parce que ça se termine par un fondu au blanc. Vous savez, on a l'habitude du fondu au noir, l'image qui devient progressivement de plus en plus noire. Total Recall se termine par un fondu au blanc. Même si on ne verra jamais les images tournées avec Patrick Swayze. On avait commencé à tourner le film avec Patrick Swayze, mais la production a fait faillite. Et après, ça a été relancé avec Schwarzenegger. Qu'est-ce qu'il y a comme film Enfin, oui, Scanner Darkly, bien sûr, oui. Oui. Oui, mais on oublie Dernier Tiers. Planète Interdite 2, on l'oublie complètement. Total Recall, la série télé, c'est bien, ça vieillit. Qu'est-ce qu'on oublie comme film? Ah oui, Confession d'un Barjo, de Jérôme Boivin. Donc, en plus, mon tournée en France, dans les Alpes. Qui est une adaptation qui fonctionne encore, sauf que, voilà, tragédie, le film, après avoir été commercialisé en VHS, n'a toujours pas été réédité en DVD, et simplement disponible actuellement en vente, en VOD sur Internet.
Le meilleur, c'est quand même Next, hein, avec Nicolas Cage.
Ah oui, mais Next et Paycheck. Vous avez vu ces deux films? Hein, si vous voulez les offrir à votre belle-mère ou n'importe où. Là, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Là, c'est ignoble. Mais c'est voilà, des films qui n'ont plus de rapport avec le texte original, qui n'ont rien.
C'est vrai.
De toute façon, Philippe K. Dick, c'est de la littérature avant d'être du cinéma. Hein.
On va peut-être s'arrêter là pour laisser à Étienne le temps de dédicacer ceux qui veulent. Ces petits guides à trimballer, et il y a aussi mon recueil de nouvelles qui n'a rien à voir avec Philippe K. Dick.
Ah si, non, il y a une nouvelle hommage.
Ah c'est vrai,
il
y a une
dans son recueil, non, il est trop modeste. Son recueil qui est splendide, il y a une nouvelle hommage à Philippe K. Dick qui est superbe. En plus, il n'est pas cher le livre.
Et merci beaucoup de votre attention et de vos questions et d'être venu.